Patrick Vivray, bonjour.
Bonjour.
Ma première question partira d'un titre de vos livres. Pourquoi ça ne va pas plus mal en France? On vient de rentrer en récession et pourtant, dites-vous, la situation est grave, il n'y a pas forcément désespéré.
Alors, d'abord, il faut rappeler que ce livre, Pourquoi ça ne va pas plus mal, il était en 2005, hein, et que la première partie du livre était intitulée Quand l'humanité risque la sortie de route. Donc, on n'était pas dans une vision idyllique de la situation. Mais ce que je disais à l'époque et ce que je continue aujourd'hui à assumer, c'est que on est rentré dans une période de mutation historique extrêmement forte, que ce qu'on appelle crise, c'est la résistance du vieux monde. Donc tant que on veut maintenir par exemple les privilèges du vieux monde, bah évidemment ça produit une situation de crise, mais que du côté positif, il y a les forces du monde à naître avec une formidable créativité qu'on peut voir à l'échelle mondiale qui est elle une source d'espérance et qui fait que la possibilité de sortir par le haut de ce temps de bouleversement est également possible.
Alors pour sortir vers le haut et pour passer de cet ancien monde à un nouveau monde en transition, qu'est-ce qu'il faut? Du neuf et du courage?
Il faut d'abord des changements de posture dans le rapport à la richesse, dans le rapport au pouvoir. Hein, parce que tant qu'on a par exemple une captation de richesse qui est absolument phénoménale, on vient de voir les derniers chiffres concernant les paradis fiscaux, plus de 26 000 milliards de dollars, donc des sommes absolument fabuleuses et qui sont détenues par 91 000 personnes, c'est-à-dire 0,001% de la population mondiale. Donc il est clair que le changement de posture dans le rapport à la richesse est absolument fondamental. Mais on a aussi besoin d'un changement de posture dans le rapport au pouvoir. Tant que le pouvoir est un objet de captation, de conquête, on ne peut pas avoir ce qu'est normalement le sens initial du verbe pouvoir, qui est un verbe auxiliaire qu'on écrit en minuscules et qui n'a de sens qu'avec des compléments. C'est-à-dire, normalement, c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Donc la grande affaire de la mutation qui est en cours, c'est de réussir ce changement de posture. Quand on prend, par exemple, la question de la transition, les villes en transition, mais il n'y a pas de raison que ce soit que les villes, on peut avoir un pays en transition. La France pourrait être un pays en transition. L'un des enjeux, c'est à la fois de décrire le futur souhaitable pour sortir de la peur et rentrer dans un imaginaire positif et de décrire les éléments de la transition avec y compris la part de résistance à l'insoutenable que cela suppose.
Alors vous avez commis un livre, c'était Reconsidérer la richesse. C'est un petit peu vous, Patrick Vivray, qui avez été à la base avec le sol de ce qu'on appelle aujourd'hui les monnaies complémentaires ou les monnaies sociales. Quel rôle jouent-elles et peuvent-elles jouer dans ce monde en transition que vous appelez de vos voeux?
Dans la question d'une autre approche de la richesse, hein, c'était le thème du livre et du rapport que j'avais remis à l'époque où il existait un secrétariat d'État à l'économie solidaire, il y avait les deux volets. Il y avait une autre approche de la richesse, c'est y compris la question de la mise en cause des indicateurs comme le produit intérieur brut, mais il y avait aussi la réappropriation citoyenne de la monnaie. Et le sol, ça a été une des premières initiatives en France, mais qui, fort heureusement, on a aujourd'hui sans fleurs avec tout ce mouvement des monnaies locales et citoyennes qui s'est développé. Et donc, pour moi, ça participe à la fois de cette nouvelle approche de la richesse, mais aussi de cette réappropriation citoyenne. Donc là, on est vraiment sur la question démocratique de la monnaie. Normalement, la monnaie est un bien commun que les citoyens se donnent entre eux pour faciliter leur échange et la création de richesses, il n'est pas acceptable qu'on assiste à une privatisation de la création monétaire et où vous avez des banques qui reçoivent de l'argent frais de la banque centrale à des taux d'intérêt dérisoires et les États et les citoyens qui, eux, doivent payer 600 fois plus, c'est à peu près ça la différence. Donc pour moi, tous les mouvements des monnaies locales sont inscrits dans cette perspective de réappropriation citoyenne de la monnaie.
Alors justement, quel est dans ce rôle-là, dans ce cadre-là, le rôle des élus?
À ce moment-là, le rôle des élus, c'est d'être dans leur rôle ministériel. Ministre, normalement, ça veut dire au service. Donc, c'est d'être dans la logique d'un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Et à ce moment-là, les élus sont au service, ce sont des ensembliers, ce sont des fédérateurs d'énergie, mais ils ne sont pas en surplomb de leur population et ils ne sont pas dans un rapport où le pouvoir est un objet de conquête.
Pouvoir non pyramidal, mais pouvoir donc parallèle, transversal.
Ben, en tout cas, un pouvoir partagé, parce qu'à ce moment-là, c'est un pouvoir comme une énergie, et une énergie renouvelable. Si je fais la comparaison avec le nucléaire, quand vous êtes dans un pouvoir pyramidal, c'est aussi un pouvoir dangereux qui génère des risques de déchets, de toxicité graves. Quand vous êtes dans le pouvoir partagé, vous êtes dans une énergie renouvelable et qui est démultipliée par la coopération des acteurs qui se donnent mutuellement du pouvoir.
Est-ce que vous pensez, Patrick Vivry, qu'on est prêt en France à cette mutation ou qu'on le fera parce qu'on ne pourra pas faire autrement ?
Comme souvent, les deux choses sont présentes. D'abord, il y a un nombre croissant d'acteurs qui sont rentrés dans ces nouvelles postures, et le mouvement des monnaies locales en est une démonstration, mais les mouvements autour d'une mutation qualitative de la démocratie le manifestent sur d'autres terrains, les réseaux d'échange réciproque de savoir, les banques de temps, etc., tout ça participe de cette créativité. Et puis il y a aussi le fait que on est rentré dans une phase où le modèle dominant est de plus en plus insoutenable. Il est insoutenable écologiquement, socialement, ça on le savait depuis longtemps. Le fait nouveau depuis 2008, c'est qu'il y a aussi une insoutenabilité financière du modèle dominant. Donc il y a aussi des raisons de nécessité qui obligent à opérer des transformations importantes.
Vous êtes optimiste pour la suite ?
Je suis exactement dans la situation qu'évoquait Antonio Gramsci, qui disait il faut allier le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Donc il faut être à la fois capable d'être dans la lucidité totale sur les risques et les défis, et en même temps dans l'optimisme de la volonté, c'est-à-dire l'énergie créative de la transformation et de la transition.
Merci Patrick Huret.
Merci.